There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Mes chers camarades, bien le bonjour. Est-ce qu'on peut ramener un noyé à la vie en lui soufflant de la fumée dans les fesses ? Alors, riez pas, hein, c'est vraiment le sujet du jour. Et les médecins du XVIIIe siècle se sont très sérieusement posé la question. Enfin bon, je me demande s'ils n'avaient pas un petit peu besoin de vacances. Hein. Enfin, cela dit, je commence à avoir l'habitude, et d'expérience, quand l'histoire m'apporte une anecdote bien absurde, je sais qu'il faut toujours commencer par la remettre dans son contexte.
Ladies and gentlemen, the story you are about to hear is true.
Niveau médecine, le XVIIIe siècle est souvent présenté comme assez vide. En 1628, Harvey a démontré la circulation sanguine et en 1780, Lavoisier a révélé comment fonctionnait la respiration. Mais entre les deux. Bon, il y a quand même l'observation des spermatozoïdes, quelques expériences électriques sur les muscles et autres avancées anatomiques. Mais à part ça, il ne se serait pas passé grand-chose de notable. Il faut dire que la médecine de l'époque est un vrai champ de bataille entre deux visions différentes du monde. D'un côté, le mécanisme de Descartes qui prétend que le corps est une machine. De l'autre, les théories vitalistes qui affirment que les cellules vivantes ont au contraire des propriétés très particulières. Et justement, dans le cadre de cette dispute, on se pose une question : est-ce qu'on peut réanimer un noyé ? Et c'est là que certains se disent : et si on lui soufflait de la fumée dans le fondement ? Alors, ne riez pas, parmi eux, on compte quelques très grands noms, hein, quand même, comme le physicien et naturaliste René-Antoine Réaumur et le médecin Jacques-Jean Bruyer, qui rapporte même le témoignage d'une réanimation réussie à Passy, tout près de Paris. On en a fait une gravure en Angleterre, qui s'intitule « La manière la plus efficace de sauver un noyé ». D'ailleurs, le docteur anglais Richard Mead soutient la théorie, tout comme le chirurgien Antoine Louis, le co-inventeur de la guillotine, et le Suisse Samuel-Auguste Tissot, surnommé le médecin des princes et le prince des médecins, très connu notamment pour ses travaux sur la masturbation. Toute cette bande de joyeux lurons, des sommités scientifiques de l'époque, sont d'accord. Une petite soufflette de nicotine dans le derrière, et c'est reparti pour un tour. Et on ne parle pas d'une pratique anecdotique relayée par deux charlatans qui se battent en duel. D'ailleurs, on passe vite de la théorie à la pratique à Amsterdam, une ville pleine de canaux et de marins bourrés, et donc pleine de noyés. Là, des particuliers proches de la pensée des Lumières créent en 1767 la première société de secours aux noyés. Soucieux du bien public, ils placent tout le long des canaux des machines qui insufflent du tabac dans les intestins de manière très efficace. Un peu comme on met des défibrillateurs dans tous les bâtiments publics aujourd'hui. La société récompense même ceux qui essayent ou réussissent à sauver un noyé avec leur méthode, et ça avec de l'argent ou bien une médaille sur laquelle on peut voir l'humanité repousser la mort à l'aide de la fameuse machine. Pour l'anecdote, la société existe encore aujourd'hui, alors si vous sauvez un noyé à Amsterdam, vous pourriez recevoir exactement la même médaille. Par contre, évitez de lui mettre un zef de chicha dans l'arrière-train, hein, parce que de nos jours, la société recommande plutôt la réanimation cardio-pulmonaire. Mais à l'époque, ce type d'organisation se multiplie en Europe, à Paris, à Londres, à Venise, et toutes recommandent la même pratique à l'aide de leur propre machine fumigatoire. Par exemple, Philippe-Nicolas Piat, l'apothicaire en charge des secours aux noyés de Paris, diffuse la sienne dans toute la France. Ce marché très juteux est bientôt attaqué par des machines concurrentes, comme celle du docteur Gardanne, qui envoie moins de fumée d'un coup, mais se transporte très facilement. Il y en a bien quelques-uns pour critiquer cette pratique, mais on la retrouve encore au début du 19e siècle, avec même des progrès techniques, comme celle de Jan Adrian Kohl, directeur de la Société d'Amsterdam, qui met au point un soufflet à tabac amélioré en 1837. Bon, comme quoi ma petite anecdote drôle, c'est devenu une vraie page d'histoire. Mais vous vous demandez peut-être, d'accord Ben, mais comment on en est arrivé là, sérieux ? Eh ben, pour ça, il faut parler de l'histoire de la réanimation en général. En fait, la réanimation apparaît assez tard dans notre histoire. Avant le XVIIIe siècle, on n'en a que quelques mentions rares et isolées. C'est assez logique, à une époque où un enfant sur deux n'atteint pas 20 ans, où la mort violente ou pathologique est beaucoup plus fréquente qu'aujourd'hui, la réanimation, ce n'est pas vraiment une priorité. Bref, avant les années 1730-1740 et la vapoteuse mal placée, il n'y avait rien. Bien sûr, d'autres pratiques existent, mais elles apparaissent en même temps. Par exemple, passer par la bouche. Mais pas comme notre bouche à bouche moderne, hein, plutôt en soufflant très fort dans les poumons, ce qui est en fait hyper dangereux. Ou alors, on conseille de réchauffer le noyé en le frottant avec des linges chauds, ou en l'enterrant sous des cendres chaudes ou dans du fumier. Certains textes préconisent de raser le noyé ou encore de lui uriner dans la bouche. C'est vraiment le carnaval du what the fuck, hein, comme on dit. Et en même temps, vu qu'on n'a jamais essayé avant, eh bien on essaye un petit peu tout. Et le pire, c'est que ça a été utile. Vous l'avez bien compris, pulser de la cheminée dans le tout à l'égout des noyés a fini par entraîner un vrai progrès. Déjà, la réanimation médicale se répand en Europe. Et la première organisation de médecine urgentiste apparaît avec un protocole strict. Il faut utiliser du matériel standardisé et placé aux endroits adéquats. On apprend aussi à agir médicalement sur un mort, et en toute urgence en plus. Au bout du compte, ça fait un tas d'évolutions. Comme le dit l'historien Robert Darton, c'est justement quand on tombe sur quelque chose d'improbable qu'on a la possibilité de découvrir des aspects inconnus de la culture passée. Ici, par exemple, on découvre un nouvel aspect de la période des Lumières. Mais en plus, on se rend compte que l'histoire des sciences, eh bien, ça n'est pas qu'une succession de découvertes formidables qu'on peut attribuer à un génie solitaire, comme Copernic, Galilée, Darwin, Pasteur, Einstein, Curie et toute la bande. Bien sûr, il y a des épisodes historiques particuliers. Par exemple, on a fait un épisode sur comment la guerre de 14-18 a complètement transformé les services de santé. Mais tout ça, ça reste des exceptions. Pour ce qui est de la fumée dans les intestins, c'est triplement bizarre. Premier paradoxe, la pratique est présentée comme efficace, mais personne n'explique pourquoi. Dans les traités, aucune explication sur pourquoi le tabac, pourquoi les intestins. Rien. Second paradoxe, même si personne ne sait, eh bien, tout le monde le fait. La pratique, injustifiée, est ultra répandue. Et enfin, aucune des grandes écoles scientifiques de l'époque ne justifie cette pratique. La théorie des humeurs, le mécanisme, le vitalisme, toutes ces justifications détaillées n'arrivent qu'après le grand boom de la pipe au cul. Quand Réaumur indique qu'il faut utiliser du tabac, il reprend en fait une discussion qui a eu lieu en Suisse un peu plus tôt sur la réanimation. Dans ce débat, il était question d'insuffler de l'air. Pourquoi Réaumur est passé de l'air pur à la fumée de tabac, il ne dit jamais pourquoi. Si l'on cherche plus tôt, on trouve quelques mentions dispersées de la pratique, chez un médecin italien du XVe siècle, un Hollandais du XVIIe, et à la même époque, dans le journal d'un marin anglais qui aurait vu un villageois sur la côte le pratiquer sur un noyé. Au tout début du XVIIIe siècle, un chirurgien français raconte que durant son voyage en Amérique du Nord, les Amérindiens Micmac réanimaient les noyés en leur soufflant justement de la fumée de tabac dans le derrière à l'aide d'un calumet. Mais là, on sait qu'il se trompe et répète en réalité ce que les colons européens de la région lui racontent. En réalité, les Micmac n'ont jamais fait ça. Donc finalement, en 300 ans, on a une idée rare, dispersée, jamais expliquée. La description de la technique est très floue et il n'y a aucune théorie derrière. Et pourtant, tous ces gens ont eu exactement la même idée bizarre. L'hypothèse la plus probable est qu'une vieille tradition, non savante, était partagée par la population d'une partie de l'Europe. Vous avez peut-être entendu dire que la bonne vieille médecine paysanne était fondée sur une connaissance approfondie des propriétés des plantes. Les fameux remèdes de grand-mère. En fait, là, on découvre une toute autre réalité. La médecine des anciens regorge aussi de trucs archi-faux qui ne sont basés sur aucune science en particulier. Par exemple, nettoyer un couteau avec lequel on s'est coupé fera guérir la blessure. Mettre des excréments sur une plaie ouverte aussi. Pour soigner un très jeune enfant malade, on le fait passer sous terre par un petit tunnel creusé à l'entrée d'un bois. Tous ces trucs absurdes ne se basent absolument pas sur l'expérience, la connaissance ou la science, mais sur des symboles. Par exemple, la lisière du bois symbolise la limite entre deux mondes, la forêt et la civilisation. La sortie d'un tunnel symbolise donc une nouvelle naissance. Collez tout ça ensemble et vous obtenez une médecine symbolique. L'enfant va guérir. Question, est-ce qu'on peut faire pareil avec l'insufflation de tabac ? Et si tout ça ne venait d'aucune théorie médicale, mais juste de symboles ? Et alors là, c'est facile comme tout. Le grand rite annuel symbolique le plus important en Europe, c'est le carnaval. Et le carnaval a toute une symbolique de mort et de renaissance. Notamment soufflé au derrière, ce qui provoque la résurrection. Des proverbes carnavalesques de Rouen l'affirment à la même époque comme des romans qui reprennent les personnages de Rabelais. Et au XVIIe siècle, dans la Commedia dell'arte, c'est une façon de faire revivre un mort de façon grotesque. Dans les carnavals, mais aussi des mariages à travers toute l'Europe, on pratique la danse du barbier. En gros, en musique, un faux barbier fait mine de raser un client avec un énorme rasoir en bois. Il l'égorge par maladresse, mais le ressuscite en lui soufflant dans le derrière. On retrouve ce rite en Allemagne, en France, mais même en Cachoubie, une région très éloignée de Pologne qui a sa propre langue. Et aussi dans le Pays Basque, qui a priori n'a rien en commun avec toutes les autres régions. De même, le très vieux conte de Cornancu raconte comment un pauvre paysan rusé vend très cher au seigneur de son village de faux objets magiques. Par exemple, il fait semblant de tuer sa femme et la ressuscite en lui soufflant dans le derrière à l'aide d'un soufflet ou d'un tuyau. Cette légende est aussi répandue à travers la France, la Suisse, l'Espagne et l'Italie. Bref, vous voyez où je veux en venir. Plus une tradition est répandue, diffusée à travers beaucoup de pays sans que l'on sache pourquoi, et plus elle est ancienne. Comme par magie, le mythe carnavalesque explique tout. Durant cette fête, on utilise l'urine. Voilà pourquoi on préconisait de raser le noyé, de lui faire pipi dans la bouche ou de lui souffler dans le fondement. Ce sont tous des rites du carnaval et de la danse du barbier. Même les colons de la Nouvelle-France l'ont ramené en pays Micmac, où ils pratiquent la danse du barbier sous le nom de danse du sauvage, d'où la confusion. Au XVIIIe siècle, n'ayant aucune connaissance sur comment faire revivre un mort, les savants des Lumières se sont spontanément appuyés, sans forcément s'en rendre compte, sur deux très, très vieux symboles des fiestas du Moyen-Âge. Alors qu'à l'époque, je vous rassure, on n'y croyait pas vraiment. Par exemple, on a le témoignage d'un médecin italien du XVIe siècle à qui on demande de soigner un mort et qui répond « Eh, fiston, s'il est mort, tu crois qu'en débarquant avec ma médecine, je peux lui souffler au cul et te le rendre vivant ?» Lucide le gars. En tout cas, tous ces liens sont démontrés justement dans le livre « Du tabac pour le mort, une histoire de la réanimation » écrit par Anton Serdeczny, qui a justement écrit cet épisode. Alors, qu'est-ce qu'on peut en retenir ? Eh bien que la culture joue un rôle dans la construction de la science. La science, ça n'est pas une bulle coupée du reste du monde. Même si elle tend à la connaissance universelle et objective, elle se construit aussi dans un cadre social et historique qui l'influence inévitablement. Parfois, ça se finit bien, Notre histoire de cornet pour le popotin en est la preuve, ça a aidé à forger de nouvelles habitudes médicales. Mais parfois, c'est la catastrophe. À la même époque, les mêmes savants des Lumières croyaient en la maladie de l'onanisme. Comme quoi la masturbation menait aux pires souffrances et même à la mort. Et ça ne vient pas du tout du Moyen-Âge religieux. Non, c'est inventé à cette époque-là. Est-ce que les choses ont changé depuis ? Oui et non. Déjà, autrefois, la médecine se basait sur la raison, l'observation, l'expérience, l'expérimentation. Certes, elle est devenue incomparablement plus efficace aujourd'hui, mais l'aspect culturel est toujours là, à gratter derrière la porte. On peut penser à la pandémie du coronavirus et aux différentes réactions, aux discours, aux attitudes des médecins, des individus, des pouvoirs en place. Rappelez-vous, c'était un joyeux mélange de certitudes, de craintes, de doutes et bien sûr, de croyances. Merci à Anton Serdeczny pour la préparation de cet épisode. Merci à Studio Pluriel pour la technique. À très bientôt pour de nouveaux podcasts.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Ando.
And I'm Fer.
And we host Niñas Bien podcast.
We want to invite you to listen to our show.
Niñas Bien means good girls in Spanish, but you have to know that this is not a podcast for good girls.
Or for girls at all. It is a comedy podcast, so everyone is welcome to listen.
We talk about sex, relationships, technology.
We recommend movies and TV shows and discuss pop culture in general.
And there is chisme ajeno too.
A section we have just to gossip about everyone. So you'll find something you like here.
And you'll practice your Spanish.
The cleanest Spanish you'll find, we promise.
And if you already hablas español,
vamos a ser tus nuevas amigas. We'll be your friends for the non-Spanish speakers.
New episodes every Monday and Thursday.
Hosted by Acast and available to all audio platforms.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Si vous avez aimé ce podcast, vous aimerez aussi mon autre podcast, Callisto, dans lequel je vous raconte des mythes et des légendes. En attendant, que vous nous suiviez sur Castbox, Apple Podcast, Podcast Addict ou toute autre plateforme qui propose cette fonction, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez même nous laisser une note et, soyons fous, un petit commentaire, je le lirai avec plaisir.